Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien en direct à l'écoute de l'émission Constellation. Si l'on prend la liberté de faire un mauvais calembour, on pourra sans conteste affirmer que Pierre de Ronsard a eu une pléiade d'inspiratrices. Non pas au sens strict, qui voudrait qu'il y en ait eu sept, puisque le fameux groupe de poètes de la Renaissance française, après s'être appelé Brigade, adoptera le nom de pléiade en référence au mythe des sept filles du géant Atlas, changé en une constellation d'étoiles. Nous avions, dans le cadre de cette émission, évoqué le poète Étienne Jodel. Il est admis de lui joindre Joachim du Bellay, Jean-Antoine de Baïf, Rémi Bellot, Jean Dorat, Jacques Pelletier du Mans et Pontus de Tillard. Le chiffre de sept est alors dépassé. Quant aux inspiratrices, et si l'on accepte le cortège des neuf muses conventionnellement invoquées en ces temps renaissants, on peut les nommer dans l'ordre chronologique. Il y a tout d'abord Cassandre Salviati, rencontrée le 21 avril 1546 à un bal de la cour à Blois. Cassandre était la fille d'un banquier florentin, Bernard Salviati, passé au service du roi de France. Ronsard avait commencé à suivre les leçons de Dora et il allait, en 1547, s'enfermer au collège Coqueret, sur la montagne Sainte-Geneviève, pour y faire ses études d'humaniste. Claire tonsurée, il ne pouvait songer à épouser Cassandre et dès le mois de novembre 1546, celle-ci se maria avec Jehan Peignet, seigneur de Prêt, village situé à quelques lieues de Vendôme, au sud-est de la Poissonnière, sur les bords du Loir, près du hameau de Couture, dans le Vendômois, si chanté par Ronsard. Ensuite, il y a Marie. Le nom apparaît pour la première fois dans la continuation des amours. A-t-elle existé véritablement ? Les contemporains n'ont pas parlé d'elle, sans doute à cause de son humble origine. Elle habitait Bourgueil, c'est pourquoi elle sera désignée du terme de Marie de Bourgueil. Ensuite, il y a une autre femme dans un recueil qui s'intitule « Le second livre des mélanges » et cette fois-ci, c'est une femme qui est nommée Sinope. C'est un pseudonyme formé de deux mots grecs, « sinein » et « ops », la vue, qui signifie « qui abîme la vue ». Sinope reproche au poète de porter le bonnet rond qui distingue les gens d'église et Ronsard, avec cynisme, vante la liberté amoureuse des ecclésiastiques, liberté bien supérieure à la chaîne du mariage. Ronsard chantera aussi ensuite les amours d'Eurymédon et de Caliré, Caliré qui veut dire qui coule belle, et ça désigne par un autre jeu de mots Anne d'Atride Aquaviva, demoiselle d'honneur de Catherine de Médicis, d'origine napolitaine. Ensuite, on a encore une autre figure féminine, puisque les sonnets et les stances sur la mort de Marie, le critique René Sorgue a démontré avec brio que la plupart de ces pièces n'ont pas été composées pour Marie de Bourgueil, déjà évoquée tout à l'heure, mais bien pour Marie de Clèves, maîtresse follement aimée d'Henri III. On a aussi un autre recueil intitulé « Astrée, les sonnets et les madrigales pour Astrée ». Ronsard a-t-il aimé celle qui chante sous le nom d'Astrée et qui ne saurait être que Françoise Babou de la Bourdésière, mariée en 1569 à Antoine d'Estrée, grand maître de l'artillerie et qui fut la mère de la belle Gabrielle d'Estrée, tant aimée d'Henri IV. Ensuite, il y a aussi Hélène, dans un recueil intitulé « Sonnet pour Hélène ». Ronsard l'a rencontrée alors qu'il était déjà âgé de 48 ans, en 1572, cet amour naquit d'un choix délibéré de la reconnaissance des dons intellectuels, la vertu, qui font briller l'esprit d'Hélène de Surgères parmi les filles d'honneur de Catherine de Médicis. Avec Cassandre, Marie de Bourgueil, Sinope, Anne d'Aquaviva, Marie de Clèves, Françoise de la Bourdésière, Hélène de Surgères, ce sont donc pour le moins sept femmes, en effet, qui non seulement ont inspiré le poète, mais encore qui ont structuré la composition de ses recueils successifs. Lisons à présent certains des poèmes, à nos yeux les plus aboutis, tirés des différents recueils avec à chaque fois une inspiratrice. On conservera bien évidemment les archaïsmes si savoureux, dans l'incertitude aussi quant à la prononciation exacte des hommes de ce temps. Tout d'abord, un poème extrait de la continuation des Amours. Marie, vous avez la joue aussi vermeille qu'une rose de mai. Vous avez les cheveux de couleur de châtaigne, entrefrisés de nœuds, gentement tortillés tout autour de l'oreille. Quand vous étiez petite, une mignarde abeille dans vos lèvres forma son doux miel savoureux. Amour laissa ses traits dans vos yeux rigoureux. Python vous fit la voix à nul autre pareil. Vous avez les tétins comme deux monts de lait caillés bien blanchement sur du jonc nouvelet qu'une jeune pucelle au mois de juin façonne. De Junon sont vos bras, des grâces votre sein, vous avez de l'aurore et le front et la main, mais vous avez le cœur d'une fière lionne. Un autre sonnet, tiré là encore de la continuation des Amours. Je vous envoie un bouquet de ma main que j'ai ourdi de ses fleurs épanouies. Qui ne les eût à ce vêpre cueillies, flaques à terre, elles chèreraient demain. Cela vous soit un exemple certain que vos beautés, bien qu'elles soient fleuries, en peu de temps, chèreront toutes flétries et périront comme ces fleurs, soudain. Le temps s'en va. Le temps s'en va, madame. Las, le temps non, mais nous, nous en allons. Et tôt, seront étendus sous la lame. Et des amours, desquels nous parlons, quand seront morts, n'en sera plus nouvelle. Pour ceux, aimez-moi, cependant qu'est belle. Je vais lire à présent un autre sonnet tiré cette fois du recueil Sur la mort de Marie, qui, comme je le disais tout à l'heure, ne désigne pas Marie de Bourgueil, mais Marie de Clèves. Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs, au point du jour la rose, la grâce dans sa feuille, et l'amour se repose, embaumant les jardins et les arbres d'odeur. Mais, battu ou de pluie ou d'excessive ardeur, languissante elle meurt, feuille à feuille déclose. Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la parque t'a tué, et cendre, tu reposes. Pour obsèque, reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que, vif et mort, ton corps ne soit que rose. Un autre sonnet, cette fois-ci tiré du recueil voué, dédié à une autre inspiratrice, Hélène. Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, direz, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors, vous n'aurez, servante, oyant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui, au bruit de Ronsard, ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louanges immortelles. Je serai sous la terre et fantôme sans eau. Par les ombres myrteux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Deux autres sonnets, toujours tirés du recueil, sonnets pour Hélène. Je vois mille beautés, et si n'en vois pas une, qui contente mes yeux. Seul, vous me plaisez. Seul, quand je vous vois, mes sens vous apaisez. Vous êtes mon destin, mon ciel et ma fortune, ma Vénus, mon amour, ma Charite, ma brune, qui tout bas pansement de l'esprit me rasait et des belles vertus l'estomac m'embrasait, me soulevant de terre au cercle de la lune. Mon œil de vos regards goulûment se repaît. Tout ce qui n'est pas à vous lui fâche et lui déplaît, tant il a par usance accoutumé de vivre de votre unique, douce, agréable beauté. S'il pêche contre vous, affamé de vous suivre, ce n'est de son bon gré, c'est par nécessité. Et cet autre sonnet, qui ressemble de très près à l'art du blason, si pratiqué par Clément Marot. Ses cheveux, ses liens, dont mon cœur tu enlaces, grêles, primes, subtiles, qui coulent aux talons, entre noirs et châtains, bruns, déliés et longs, telles que Vénus les porte, et ses trois belles grâces, me tiennent si estreint, amour, que tu me passes au cœur, en les voyant, sans pointe d'aiguillon, dont le moindre des nœuds pourrait des plus félons, en leur plus grand courroux, arrêter les menaces. Cheveux non achetés, empruntés ni fardés, qui votre naturel sans feintise gardez, que vous me semblez beau. Permettez que j'emporte un lien à mon col, afin que sa beauté, me voyant prisonnier, lié de telle sorte, se puisse témoigner quelle est sa cruauté. Un autre sonnet, tiré là encore de la continuation, cette fois, des amours. Mignonne, levez-vous, vous êtes paresseuse. J'ai la guet alouette au ciel à fredonner, et j'ai le rossignol frisquement jargonné, dessus l'épine assis, sa complainte amoureuse. Debout donc, allons voir l'herbelette perleuse et votre beau rosier de boutons couronnés et vos œillets aimés auxquels avait donné hier au soir de l'eau d'une main si soigneuse. Hier, en vous couchant, vous me fîtes promesse d'être plus tôt que moi ce matin éveillé. Mais le sommeil vous tient encore toute sciée. Yan, je vous punirai du péché de paresse. Je vais baiser 100 fois votre œil, votre tétin, afin de vous apprendre à vous lever matin.
Quick, quick, entre jeunes.
l'autre texte qui va évoquer les bords du Loir, à ne pas confondre évidemment avec la Loire, c'est-à-dire le Loir près du hameau de Couture, dans le Vendômois, là où Ronsard naquit. Mais réponds, méchant Loir, me rends-tu ce loyer pour avoir tant chanté ta gloire et ta louange? As-tu osé, barbare, au milieu de ta fange, renversant mon bateau, sous tes eaux m'envoyer? Si ma plume eût daigné seulement t'employer six vers à célébrer quelque autre fleuve étrange, quiconque soit celui, fût-ce le Nil ou Gange, comme toi n'eût voulu dans ses eaux me noyer. D'autant que je t'aimais, je me fiais en toi. Mais tu m'as bien montré que l'eau n'a point de foi. N'es-tu pas bien méchant pour rendre plus famé ton cours, à tout jamais du los qui de moi part, tu m'as voulu noyer, afin d'être nommé, en lieu du Loir, le fleuve où se noya Ronsard. Et puis enfin, je lis un dernier texte, un dernier sonnet tiré des Amours. J'espère et crains, je me tais et supplie. Or, je suis glace et or un peu chaud. J'admire tout et de rien ne me chaud. Je me délasse et puis je me relis. Rien ne me plaît, sinon ce qui m'ennuie. Je suis vaillant et le cœur me défaut. J'ai l'espoir bas, j'ai le courage haut. Je doute amour et si je le défie. Plus je me pique et plus je suis rétif, j'aime être libre et veux être captif. 100 fois je meurs, 100 fois je prends naissance. Un Prométhée en passillon je suis, et pour aimer, perdant toute puissance, ne pouvant rien, je fais ce que je puis. Au cours de cette émission, nous avons pu entendre successivement, d'abord d'un compositeur nommé Bassano, une chanson intitulée « Hélas, Madame », interprétée par la Capilla Flamenca. Puis de Pierre Serton, qui est un compositeur de la Renaissance, qui a composé plusieurs centaines de chansons, la chanson « Que n'est-elle auprès de moi ?» interprété par l'ensemble Clément Jeannequin, Clément Jeannequin étant lui aussi un compositeur de ce temps qui a composé des musiques tant profanes que religieuses. Ensuite, de Josquin des Prés, une chanson célèbre interprétée par les Profeti de la Quinta, la chanson « Mille regrets », et enfin, tirée du poème célèbre de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose, que je n'ai pas lu aujourd'hui, mais qui fait partie des odes et non pas des sonnets, la chanson Mignonne, allons voir si la rose, interprétée par Donna Stewart et Ron Andrico, qui font partie de l'ensemble Mignarda Lute Song. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.